C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin et d'adorer avec vous, de bénir l'Éternel ensemble. C'est toujours une expérience merveilleuse. Pour vous qui suivez notre parcours, le changement le plus récent, c'est que nous sommes de retour en Corse. Nous étions plus d'une trentaine d'années, puis là nous sommes de retour dans la région de Bastia. Et là, je suis en transition aujourd'hui entre l'enseignement dans une école biblique et le retour à Bastia. C'est un plaisir pour moi de vous saluer. C'est aussi un plaisir de vous apporter une exhortation de la part du Seigneur. J'ai lu dans un journal sur Internet, l'internaute.com, un article qui a été rédigé au mois de janvier 2008, qui me pousse à vous poser cette question. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour avoir les qualités requises afin d'obtenir ce qui nous est le plus précieux? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour avoir les qualités requises afin d'obtenir ce qui nous est le plus précieux? Et dans cet article, on disait justement qu'il y avait 10 sportifs qui avaient changé de nationalité. Alors certains, pour raisons politiques, ils voulaient vivre dans un pays où ils étaient davantage libres. D'autres, parce qu'ils étaient amoureux d'une personne d'une autre nationalité et il fallait changer de nationalité pour se marier, et d'autres encore pour l'argent, parce qu'ils gagnaient mieux leur vie en changeant de nationalité. Ce n'est pas exactement les sources de motivation sur lesquelles je voudrais vous entretenir ce matin, mais cette semaine dernière, j'ai enseigné les Épîtres aux Thessaloniciens. Et une des phrases qui revient dans ces épîtres, vous la reconnaîtrez bien, l'apôtre Paul dit: Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Jésus-Christ. Et parfois, nous rencontrons des chrétiens qui préfèrent que leur parcours soit à leur façon. Moi, je veux grandir en Christ, mais je veux choisir la façon dont je veux grandir en Christ. On peut leur donner des conseils, on peut essayer de les encadrer. Non, ils sont totalement indépendants, autonomes, et ils veulent grandir à leur façon. Mais je suis là pour vous rappeler, pour me rappeler aussi, que la méthode qui nous est donnée dans la parole de Dieu, surtout pour les débutants, et l'Église de Thessaloniciens n'était pas très ancienne, c'est tout simplement d'imiter. Imiter la personne qui a les qualités requises pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et je vais vous inciter à imiter un caractère biblique, une personne de la Bible. Car cette personne a eu d'énormes privilèges de la part de Dieu. Alors c'est une femme. Et vous comprendrez tout de suite dès que je vous donne son nom, Marie. Marie a eu le privilège unique. Personne n'aura ce même privilège, celui de porter en son sein le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas de chercher à avoir le même privilège que Marie, c'est impossible. Jésus naîtra qu'une fois et il est né. Mais néanmoins, c'est un énorme privilège et si on aime Dieu de tout son cœur, on veut quand même faire ce que Dieu voudrait que nous fassions, qui est toujours un énorme privilège, celui de représenter Dieu auprès des hommes. Avons-nous les qualités requises pour que Dieu nous choisisse, pour accomplir sa mission, celle qu'il veut que nous accomplissions? Je vous propose que les qualités de Marie sont une bonne indication des éléments indispensables à l'obtention de tout privilège venant de Dieu. Il est bien d'imiter les qualités de Marie. Vous dites, si j'imite, est-ce que je ne suis pas un peu hypocrite? Non, parce qu'on est en train d'apprendre. Quand vous avez appris à écrire, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, le maître ou la maîtresse a écrit, je vais dire au tableau, parce que ça date de mon temps, de dire au tableau, aujourd'hui, ça se passe autrement. Mais on fait exactement ce que la maîtresse a fait. Et on le répète, et on le répète. Et elle nous dit, ah non, là, c'est trop long. Ou là, le cercle est ouvert, il faut le fermer. Et c'est comme ça qu'on écrit très bien. Et donc, imiter, c'est là où il faut commencer. Et après, Dieu prend en charge ce que peut-être nous devrions faire, nous en particulier. Mais enfin, j'aimerais méditer avec vous ce matin trois qualités de Marie qui révèlent son attitude envers le Seigneur. Et je vous propose tout d'abord que son attitude est exemplaire. Son attitude est exemplaire et nous devrions l'imiter, au moins chercher à avoir cette attitude. Vous direz, je n'aurai jamais l'attitude de Marie. Quand vous verrez la description que je vais vous dire, vous allez dire, mais non, j'en suis pas là. Mais il faut commencer par le désirer, parce que si on ne désire pas, eh bien ça ne va pas se réaliser, ça ne tombe pas du ciel, si on peut dire ça comme ça. Quelle était son attitude? Eh bien, c'est résumé dans une phrase que vous connaissez bien, mais nous allons lire néanmoins en Luc chapitre 1. L'évangile selon Luc chapitre 1. C'est la phrase qu'elle répond à l'ange quand l'ange lui parle de cette mission que Dieu veut lui confier. Et elle répond sans hésiter. Et cette réponse nous montre son attitude. Je vous rappelle que Marie, au moment où elle a été visitée par l'ange, n'était qu'une adolescente. Et si vous êtes adolescent, eh bien, vous êtes en position de faire la volonté de Dieu. Dieu se sert d'adolescent, Dieu se sert d'enfant même, et nous en avons des exemples dans la Bible également. Alors, au verset 38, je ne lis pas le reste du verset parce que vous le connaissez certainement par cœur. À chaque célébration de Noël, nous revenons sur cette histoire merveilleuse. Mais je voudrais juste relever quelques phrases dans ce récit qui nous montrent son attitude. Le verset 37 dit, c'est l'ange qui lui parle d'Élisabeth, sa parente, et elle qui était stérile va avoir un enfant. Et au verset 37, l'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond au verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà l'attitude que nous devrions avoir. Sans cette attitude, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu et nous n'allons jamais rien faire de grand pour Dieu. Et il est normal que nous voulions faire quelque chose de grand pour lui parce qu'il a fait quelque chose de grand pour nous. Et c'est une façon justement d'exprimer notre gratitude en disant, Seigneur, quoi que tu désires, c'est ce que je veux faire. Que ça semble impossible, ce n'est pas un obstacle, car rien n'est impossible à Dieu. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Est-ce que vous considérez que vous êtes serviteur ou servante du Seigneur? Peut-être, ou dans l'affirmatif. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Alors, elle savait que ce qu'on lui demandait était humainement impossible. Mais ça ne l'a pas empêchée à dire, si Dieu me demande de le faire, je suis prêt à le faire. Vous voyez, c'était un cas impossible. Incroyable, elle le dit même, mais je ne connais pas d'homme. Et aujourd'hui, eh bien, la biologie vous dira, non, ce n'est pas possible, et ce n'était pas possible à l'époque, et ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais pour Dieu, que ça soit contraire à la science ou pas, ce n'est pas un obstacle. Rappelons-nous, rien n'est impossible à Dieu. Et quelque part, Marie non seulement a entendu cette phrase de l'ange, mais elle y a cru. Rien n'est impossible à Dieu dans des cas impossibles. Sommes-nous des serviteurs et des servants du Seigneur dans les cas impossibles? Ce que j'aime de ce regroupement de chrétiens, c'est que vos conducteurs vous parlent du mot « réveil ». Il y a des églises qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous dites, est-ce possible d'avoir un réveil à Paris de nos jours? Je n'ai qu'une réponse, car rien n'est impossible à Dieu. Et tant que nous n'avons pas cette réponse, ça ne se réalisera pas. Et dans des cas impensables, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, parce que dans cette société, culturellement, moralement, c'était impensable d'attendre un enfant avant le mariage. Elle pourrait être lapidée pour cela. Et c'est selon la loi également. Dans notre société, ça existe. C'est même courant. Mais du temps de Marie, non. Non. Et elle aurait pu dire à l'ange, mais si je meurs à cause de cela, le Messie ne naîtra pas de moi. C'est impensable dans notre société d'attendre un enfant si on n'est pas marié. Dans des cas préjudiciables, certainement elle a pensé tout de suite, elle était fiancée, elle a dit, oui mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il va en penser Joseph ? Quand on est amoureux, on est très attaché à la personne à laquelle on est amoureux. Surtout quand on est dans les fiançailles. Là, c'est l'effervescence est au maximum, n'est-ce pas? Et on se dit, ah non, suis-je prêt à perdre mon fiancé, ma fiancée? Et elle aurait bien pensé, parce que on lit plus tard que Joseph avait l'intention de la mettre de côté secrètement, il ne voulait pas la diffamer, mais quelque part, il allait rompre les fiançailles. Donc ça aurait été légitime qu'elle y pense. Malgré sa condition d'amoureuse, qui est une condition qui parfois nous aveugle, je suis la servante du Seigneur. C'est son service. Mais je vois également qu'en tant que servante du Seigneur, elle était obéissante. L'ange a dit, tu l'appelleras Jésus. C'est ce qu'elle a fait. Elle aurait pu dire, mais il y a des noms qui sont meilleurs. Je suis quand même la maman. N'ai-je pas le droit de choisir le nom de mon enfant? Elle n'a pas cherché à comprendre. L'ange a dit Jésus, eh bien tu t'appelleras Jésus. L'obéissance. Et puis, je souligne encore une fois, sa foi. Tout ce qu'il a fallu, c'est que l'ange dise « Rien n'est impossible », elle a tout de suite enchaîné « Je suis la servante ». Voilà. Et quand vous entendez cette phrase, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, aussi impossible que cela vous semble, quand vous entendez cette phrase de la parole de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, eh bien, vous devriez réagir effectivement. Dieu est là et il va réussir ce qu'il doit faire. Rien n'est impossible à Dieu. Elle avait la foi dans des cas impossibles, impensables et préjudiciables. Je vois également qu'elle adorait le Seigneur, et c'est ce que nous avons fait ce matin, parce que elle donne un cantique, « Mon âme exalte le Seigneur », etc., etc., que vous connaissez bien entendu. On se rend compte dans ce cantique qu'elle connaissait quand même les Saintes Écritures. Or, les femmes allaient très rarement dans les synagogues, et des fois elles étaient interdites dans les synagogues. Or, elles n'avaient pas la Bible. Comment donc connaître Dieu si on n'a pas la Bible? Si on ne peut pas aller écouter la lecture de la Bible à la synagogue? On ne sait pas à quel point, en tant qu'adolescente, elle pouvait aller à la synagogue, écouter la parole de Dieu, mais on voit que dans ce cantique, eh bien, elle a cité une phrase de l'Ancien Testament. Donc, elle connaissait un peu au moins la parole de Dieu. Elle dit « Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Comme l'avait dit, il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Pour être serviteur ou servante du Seigneur, il est bon de connaître la parole de Dieu. Si on vous incite régulièrement à l'étudier, à la lire, à l'étudier, à essayer d'avancer, à assister aux études bibliques et tout cela, ce n'est pas tout simplement parce que c'est notre rôle, mais ça vous permettra d'avoir l'attitude qu'avait Marie et de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Si elle avait aucune idée de quoi parlait l'ange, elle serait dans la confusion. Mais elle a compris tout de suite ce que l'ange lui annonçait, parce qu'elle connaissait les Saintes Écritures, et nous en avons l'évidence ici. Et si vous prenez des notes, c'est dans le chapitre 1, verset 54. Alors que pouvons-nous dire en conclusion concernant son attitude? Eh bien, si elle a été choisie, c'est que Dieu savait qu'elle avait déjà cette attitude. Dieu n'a pas dit « je vais la choisir » en espérant que peut-être elle dira « je suis la servante du Seigneur ». Voyez, l'attitude, il faut la voir avant que Dieu révèle ce qu'il va faire. Et donc, on ne peut pas se dire « eh bien, quand Dieu me montrera ce qu'il veut faire, eh bien, à ce moment-là, je me déterminerai, je vais choisir si je vais être serviteur ou servante du Seigneur ou pas. » Non, il ne vous abordera même pas. Et donc, c'est là qu'il faut commencer. C'est ainsi qu'on peut résumer ce premier point. C'est de dire, il faut être qualifié avant la proposition de Dieu et pas attendre, parce qu'il ne va pas nous dire, écoute, tu peux choisir. Tu as ce choix, hein, celui qui te convient, un, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, pourquoi pas. Non, il regardera en vous et il discernera quelle est votre attitude profonde et il dira, celui-là ne va pas répondre, je suis la servante du Seigneur. Celui-ci non plus, c'est même pas la peine de les considérer, c'est même pas la peine de les aborder, parce qu'ils ne sont pas serviteurs ou servantes du Seigneur. Mais Marie, je sais comment elle va répondre. La réponse vient avant la demande de Dieu, en réalité. Le deuxième trait de caractère que j'aimerais relever concernant Marie, c'est son acceptation. On a vu son obéissance. Mais son acceptation, qu'est-ce qu'elle a accepté? Eh bien, elle n'a pas contesté tout d'abord. Ça montre qu'elle a accepté. Elle aurait pu dire, comme Zacharie, « donne-moi un signe ». Vous voyez, parfois on dit « oui, mais pourquoi Zacharie a souffert des conséquences ?» Parce qu'il doutait. Et Marie, elle dit « comment cela se fera-t-il ? » On dirait qu'elle doute aussi, mais elle n'est pas pénalisée. La différence, c'est que Zacharie voulait un signe. Marie a dit, « Comment cela se fera-t-il » C'est-à-dire, est-ce que je suis fiancée, mais je ne suis pas mariée. Est-ce que je dois me marier plus tôt pour que cela arrive ? Comment est-ce que ça va se passer ? Mais elle n'a pas demandé un signe. Donc, elle avait la foi, en réalité. Nous contestons si souvent ce qui se passe dans nos vies, ce que Dieu permet dans nos vies ou ce qu'il fait dans nos vies. On se dit quelque part, mais ce n'est pas logique. Si Dieu m'aimait, est-ce qu'il ferait ça? Est-ce qu'il permettrait ça? Si Dieu pensait véritablement à moi, est-ce qu'il organiserait mieux ma vie que ce que je suis en train de vivre? Pas de contestation. Je ne comprends pas, mais ça fait rien. Je suis la servante du Seigneur. Elle aurait pu dire, par exemple, mais je crois que Dieu a fait un mauvais calcul. Surtout quand elle a appris qu'il y aurait un recensement et que le recensement coïnciderait avec la date de son accouchement. Ça alors, aller jusqu'à Bethléem, il y a 100 kilomètres. En général, on compte 4 jours. 4 jours de marche quand vous êtes prêt à donner naissance à un enfant. Aujourd'hui, votre médecin dirait « jamais ». Ne prenez même pas l'avion. Hein? D'ailleurs, on vous refusera si vous essayez de... Même le bateau pour aller en Corse. Si vous attendez un enfant, non. Non, 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 non. Impossible. Non. Alors, dans les traditions de Noël, dans les cartes, dans les scènes qu'on peut voir, même dans les crèches, on voit souvent Marie qui est pas à pied, mais montée sur un âne. Alors on se dit, ben heureusement que Joseph a été suffisamment galant pour dire à Marie, écoute, prends l'âne, moi je vais marcher. Mais les médecins, ou la médecine aujourd'hui nous dit, elle n'était certainement pas montée sur un âne parce que quand on est si proche de l'accouchement, il vaut mieux marcher que de monter sur un âne. Moi, j'en sais pas grand-chose, mais c'est logique. Je conçois éventuellement cette chose. Et donc, mes amis, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marie quand Joseph dit, écoute, Marie, il faut qu'on y aille. Oh, non, non, non. Ma mère, elle a dit, tu vas pas aller jusqu'à Bethléem, interdit, parce que je suis la grand-mère de cet enfant. Et Joseph dit, non, non, mais il faut qu'on y aille, le recensement, c'est la loi, c'est la loi. Marie est allée. Elle aurait pu dire, oui, mais je risque une fausse couche. Elle est allée. Marie aurait pu dire, mais j'ai déjà des nausées. Alors, faire 100 kilomètres à pied quand on a déjà des nausées, c'est vraiment pas très, très sage et très intelligent, surtout pas sympathique de la part de Dieu. Il aurait pu facilement décaler ce recensement. N'est-il pas maître de l'univers et maître de l'histoire? Peut-être qu'elle l'a pensé, je ne sais pas, mais c'était pas un obstacle. Elle y est allée. Vous savez, des fois, on se demande si on ne devrait pas donner des conseils à Dieu. On ne le dit pas comme ça, ça ne serait pas... Oui, surtout pas devant un pasteur, hein, parce qu'on se ferait reprendre. Mais bon, peut-être avec son époux, son épouse, ou peut-être même pas, parce qu'on se ferait reprendre là aussi, peut-être. Alors, on parle tout seul. Et on se dit, quand même, Seigneur, écoute, tu aurais pu me demander, moi, j'aurais pu te renseigner sur ce point. Ouais. Oui, c'est vrai, logiquement, ce n'était pas le moment pour elle pour se déplacer, c'était vraiment risqué, en plus du manque de confort. Mais Marie est allée, elle n'a pas traîné les pieds, ils sont arrivés à temps. Et puis après, en parlant de ça, il y a eu d'autres déplacements aussi. Fallait aller en Égypte avec un nourrisson dans les bras. C'était plus 100 kilomètres, c'était 160 kilomètres à l'endroit le plus proche, à Hébron, 6 à 7 jours. Alors, elle vient d'accoucher, c'est pas le moment de faire 160 kilomètres non plus. Mais il fallait, l'ange a dit, il faut fuir, la vie du petit est en danger. Et puis l'accouchement, dans une étable. Déjà, il fallait que Marie accepte ces conditions, pour elle-même. Si vous êtes maman, si vous êtes mariée à une maman, vous comprenez que votre épouse vous dira, écoute, il faudrait que les conditions soient un peu meilleures hein, pour notre enfant, si elles ne le sont pas. Et déjà, elle commence bien en avance, préparer tout ce qui a besoin d'être préparé pour cet accouchement. Et donc, mes amis, Marie a dû accepter. Mais ce n'était pas juste un accouchement. C'était l'accouchement du Messie. Mais c'est impensable. C'est une chose pour moi de faire ce qu'on m'a demandé de faire, mais accoucher dans une étable, c'est indigne de Jésus-Christ. Elle aurait pu dire, mais Joseph, trouve quelque chose de meilleur. Mais toutes les auberges sont pleines, je ne peux rien faire. Mais refais un autre tour. Essaye de marchander avec l'un d'eux. Fais quelque chose. Non. Non, elle a accepté. Vous voyez, mes amis, l'attitude nécessaire pour que Dieu nous choisisse afin de faire des choses dignes de lui, le maître de l'univers, ce n'est pas de contester. La nature humaine, c'est la contestation. Ça fait même partie de la culture française de contester. Hein, on est comme ça. Mais pour ce qui est du spirituel, pas du tout. Pas du tout. Et Marie a accepté. Mes amis, l'acceptation de Marie, une avalanche de circonstances défavorables, contradictoires, insupportables, elle l'a accepté. Le troisième trait de caractère que je voudrais souligner ce matin, c'est son attention, c'est-à-dire sur quoi ses pensées se portaient-elles. Eh bien, nous voyons, et ce verset, je vais le citer, vous le connaissez aussi, puisque nous connaissons ce récit quasi par cœur. À quoi pensait-elle? Elle pourrait se dire, oui, je suis une maman célibataire. C'est très mal vu. En plus, j'ai dû marcher jusqu'ici. Arrivé ici, j'ai dû accoucher dans une étable. La Bible nous dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle les gardait comme on garde quelque chose de précieux. Malgré que j'étais en situation où je pourrais me faire lapider, eh bien, je n'ai pas été lapidé. C'est formidable, gloire à Dieu. Malgré le fait que marcher 100 kilomètres quand j'attendais un enfant, ce n'est pas sage, c'est quasiment impossible sans faire une fausse couche. Mais c'est formidable, Dieu a permis que ça se réalise. Un roi, naître dans une étable, c'est tellement indigne. Mais quelque part, ça devait être ça, parce que les anges sont venus annoncer aux bergers que c'était là qu'il devait naître. Et donc, c'était le choix de Dieu. C'est extraordinaire qu'un Dieu accepte des conditions si humbles. C'est merveilleux. Elle gardait ces choses, ses souvenirs étaient précieux, et elle les repassait dans son cœur. Aujourd'hui, peut-être qu'on comprendrait un peu ce que cela veut dire quand on utilise la phrase « repasser » ou « passer en boucle hein ». Sans arrêt, les mêmes choses. Elle revenait dessus, les mêmes choses, sans s'arrêter. Elle les méditait. Qu'est-ce que vous méditez? Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, on médite ce qui ne va pas. J'allais dire, mince alors. Hein? Quand même. Il y a des promesses dans la parole de Dieu, et moi, il m'arrive ça. Oh. Et puis, on pense à ça. Et on est presque dominé par ce qui ne va pas. Ce n'est pas l'attitude de Marie. Elle, même tout ce qui était de sa vie, qui était difficile, qui était un risque qui était humainement insurmontable ou impensable, eh bien, elle disait, mais moi j'ai dit, je suis ta servante, et lui a fait en sorte que tout s'accomplisse, et je ne médite que sur ça, sur ce que Dieu a fait, malgré les souffrances, la critique, etc. Vous savez que c'est un principe biblique. C'est un principe biblique parce que l'apôtre Paul dit en Philippiens, je vous donnerai la référence après avoir cité ce verset, qu'il y a certaines choses qui doivent faire l'objet de nos pensées. C'est tout ce qui ne va pas ? Non, il dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, fasse l'objet de vos pensées. Oui, mais quelqu'un a dit ça sur mon compte. Il ne faut pas que ça fasse pas, que ça soit l'objet de vos pensées, parce que c'était ingrat, c'était un mensonge. Allez, je ne pense pas à ça. Il faut le balayer. Voilà, pour avoir l'attitude de Marie, voilà ce qu'il faut faire, balayer ce qui ne va pas. Non, je ne veux pas penser à tout ça. Ça me pollue, ça me détruit dans ma foi. Je ne veux pas ça. Je pense à ce qui est pur, qui est honorable, qui est vrai, qui est juste, qui est aimable. Oui, mais vous croyez que tous les gens sont parfaits. Je fais comme s'ils le sont. Je ne veux pas penser à leurs imperfections. Je fais comme s'ils le sont. Voilà. C'est un peu utopique. Non, pas si on interprète tout à la lumière de la parole de Dieu. Il dit, il faut que cela fasse l'objet de nos pensées. Mes amis, Marie avait compris, et je vous rappelle qu'elle était une adolescente et qu'elle avait peu de connaissances de la Bible. Certainement, elle n'avait pas tout ce que nous avons de la Bible. Il suffit de faire ce qu'on sait déjà. Je ne vous révèle rien de nouveau, vous le savez. Mais il suffit de faire ce qu'on sait déjà. C'est aussi simple que ça. Quel doit être l'objet de notre contemplation ou les objets de notre contemplation ? Tout d'abord, Dieu, sa nature, qu'on a même du mal à exprimer dans tout ce qu'elle est, ses œuvres. Vous dites, oui, mais les œuvres de la création, c'est magnifique, mais ce qu'il a fait dans ma vie, ce n'est pas tout à fait magnifique. Alors pensez à quoi ? Ce qui est magnifique. Pensez à ses œuvres magnifiques. Sinon, votre attention est fixée sur ce qui ne va pas, et vous n'allez jamais croire qu'avec tout, Dieu, tout est possible. Sa personne, tous ses traits de caractère sont les meilleurs, souhaitables. Pensez à ça. Pensez à quoi encore ? La révélation de la parole de Dieu. Et comment ce livre, en dehors de son message, il est magnifique dans sa composition, mais alors son message aussi, extraordinaire. Pensez, méditez ces choses, mes amis, et puis après, eh bien, méditez aussi ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Vous dites, mais il n'a pas fait dans ma vie. Ben, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Mais quand quelqu'un donne un témoignage et dit, moi j'ai prié et regardez ce que Dieu a fait pour moi. Eh bien, dites, ça alors, gloire à Dieu. Et réfléchissez là-dessus. Sinon, prenez des biographies d'hommes de Dieu. Vous direz, je ne serai pas comme ça. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de contempler ce que Dieu fait, ses œuvres dans la vie des hommes. C'est ça. Alors, en conclusion, mes amis, vous dites, mais ben, ce n'est pas moi. Je ne connais pas assez la Bible. Marie n'était pas théologienne. Il n'y avait pas d'école de théologie pour les femmes. On n'a pas besoin d'être théologien. Vous dites, mais André, il faut que je connaisse mieux la Bible avant que je commence à espérer que Dieu fasse quelque chose comme ça dans ma vie. Non, elle n'était pas théologienne. Vous n'avez pas besoin d'être théologien. C'est une question de foi. La doctrine, c'est d'une importance extrême, mais la foi, c'est un autre domaine. C'est le quotidien, c'est votre attitude envers Dieu. Et la foi, il suffit de croire des phrases comme « rien n'est impossible à Dieu ». Pas besoin d'être théologien. N'attendez pas ce moment. Étudiez la Bible, mais n'attendez pas de tout connaître, toutes les réponses, avant de dire au Seigneur « je suis le serviteur ou la servante du Seigneur ». Et puis, il y a une chose qui est certaine. C'est que Marie s'alignait sur les saintes écritures dans sa conduite avant que l'ange est venu. Comment cela ? Eh bien, pour porter le Seigneur Jésus, elle devait être vierge. Si elle n'était pas vierge, elle ne pourrait pas le porter. Et on ne devient pas vierge deux fois. Et donc, c'est d'avance. Dès aujourd'hui, vous dites, mais je n'ai pas encore la foi, je ne suis pas en position. Quand je serai en position, alors là, je peux penser... Non, c'est dès aujourd'hui qu'il faut éliminer toutes les disqualifications possibles pour servir Dieu comme il voudrait que nous le servions. Marie est restée conforme dès son adolescence. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Changer de nationalité ne va rien aider dans notre parcours spirituel, donc ce n'est pas ça. Mais imiter cette jeune adolescente à qui Dieu a donné un tel privilège, eh bien, nous pouvons tous le faire. Et vous pouvez commencer par reprendre ce passage et dire, il y a certainement aussi des choses qu'André n'a pas dites ce matin, et je vais reprendre ces phrases, je vais les méditer, afin que le Saint-Esprit fasse en moi ce qu'il a besoin de faire, et que Dieu nous permette par sa grâce de réaliser la mission qu'il nous a donnée, d'annoncer l'évangile à toute création. Ça veut dire chaque Parisien, déjà, a besoin d'entendre l'évangile. Est-ce possible? Je n'ai qu'une réponse. Rien n'est impossible à Dieu. Mettons-nous en situation pour voir la réalisation de Dieu au travers de nous. S'il comptait sur autre chose pour que chaque Parisien entende l'évangile, il l'aurait dit. Je vais écrire Jean 3,16 dans les nuages au-dessus de la ville de Paris. Non, ce n'est pas ce qu'il a choisi. Qu'a-t-il choisi encore? Je vais venir moi-même sur terre et je vais l'annoncer à tous les Parisiens. Non, il a dit, moi je m'en vais. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est vous qui allez le faire. Et donc c'est la volonté de Dieu que nous le réalisions. Est-ce que nous allons le croire? Et si nous le croyons, eh bien c'est le moment d'y aller. Rien n'est impossible à Dieu. Il nous a chargés de le faire. Il nous a révélé sa volonté pour nous qui sommes à Paris. Alors allons-y. C'est aussi simple que ça. Baissons nos têtes et fermons nos yeux. Notre Père Céleste, nous avons du mal à imaginer à quel point tu peux être humble pour choisir des êtres humains comme Marie qui était inconnue, qui n'avait jamais fait quelque chose pour se démarquer, qui certainement, si elle pouvait aller à la synagogue, n'y allait pas souvent. Notre Père Céleste, nous sommes dans l'émerveillement, mais c'est ce que tu nous révèles aussi dans les Épîtres, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et tu as choisi des êtres humains comme nous. Nous ne sommes pas des savants, mais tu n'as pas dit que tu choisirais des savants. Tu choisirais des êtres humains simples, afin que tu puisses te glorifier au travers de nous. Donne-nous ce matin de suivre cette exhortation de Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur ». Et donne-nous d'imiter, voici, cette jeune adolescente, privilégiée, et dont on entend parler régulièrement partout dans le monde. Tu t'es glorifié au travers d'elle. Nous souhaitons, Seigneur, pas parce que nous estimons le mériter, mais nous souhaitons, par reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, nous souhaitons faire tout ce que tu veux que nous fassions, accomplir ta mission dans cette grande et belle ville de Paris. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.